Good morning, delegates.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais ouvrir la session. Bonjour aux interprètes, bonjour messieurs. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée après la réception qui s'est tenue à l'OMS et que vous êtes maintenant prêts à continuer les délibérations d'hier. Je reconnais le coordinateur pour l'Asie qui n'était pas présent hier. Donc je lui souhaite la bienvenue. Nous allons passer au point numéro 5 de l'ordre du jour. Qui concerne l'étude de la rapidité du processus d'établissement des normes du Codex, ainsi que les approches de gestion du travail des comités du Codex et des équipes de travail. Beaucoup d'entre vous vous rappellerez les discussions qui se sont tenues au cours de la dernière rencontre du comité exécutif, ainsi que les recommandations qui ont été faites pour une analyse plus approfondie du travail qui avait été présenté par le secrétariat. Ce matin, nous allons envisager ou aborder davantage de travail et d'analyse qui ont été préparés par le secrétariat du Codex. Pour ce qui est de l'étude sur la rapidité, nous allons revenir à la section 3.4 du plan stratégique pour analyser les approches de gestion du travail qui permettent la progression des textes dans le processus du Codex. Et nous allons procéder comité par comité et émettre des recommandations à la commission sur ce point. Le secrétariat va présenter l'analyse de la rapidité du processus d'établissement des normes du Codex.
Thank you very much, Mr. Chair.
Merci beaucoup. Ce document est très différent de ce qui avait été présenté l'an dernier. L'an dernier, il s'agissait d'une analyse très numérique qui prenait en compte tout le travail qui avait été entamé au cours des 15 dernières années et qui en suivait l'évolution à travers la procédure par étapes de façon à déterminer le nombre d'années qui avaient été nécessaires pour adopter ou du moins admettre, arriver à la conclusion d'interruption du travail. Vous verrez en annexe du document le tableau qui a été utilisé pour arriver au résultat de la dernière étude, puisque c'est une demande que nous avions reçue, c'est-à-dire de montrer ce tableau dans ce document. Vous le verrez donc, il a été utilisé pour déterminer les résultats de la rapidité pour le dernier document, avec une rapidité moyenne de 4,2 ans et 4,5 pour les normes liées à l'innocuité des aliments. Nous avons eu besoin d'un certain temps pour élaborer ce document, qui est le fruit d'un effort conjoint entre les membres des secrétariats des divers comités qui ont contribué au nom de leurs comités respectifs. C'est donc un document très complet dans sa deuxième partie, qui a trait aux normes numériques, ainsi que du travail des comités, les LMR, on peut observer les interactions qui ont eu lieu entre les comités et les organes d'avis scientifique. Il nous a semblé approprié d'inclure dans ce document l'analyse liée aux approches de gestion du travail comme le spécifiait l'activité 3.4 du plan stratégique. Nous avons donc inclus pour tous les autres comités, dans la dernière partie du document, ces éléments. Donc si vous voulez que l'on procède comité par comité, nous pourrons le faire une fois que l'on entre dans cette discussion. Pour résumer, nous avons donc les normes numériques pour les comités qui ont élaboré des principes d'analyse des risques qui définissent les interactions avec les organes d'avis scientifique. Le travail au sein des comités ne commence que lorsque l'avis scientifique est disponible. Dans ce cas, le travail progresse rapidement par le biais des étapes de la procédure et dans un cas idéal, cela peut prendre moins d'un an. De tous les autres comités, seul le comité sur l'hygiène alimentaire a établi un processus spécifique pour améliorer la gestion de sa charge de travail depuis 2005 et l'a jugé très utile dans la gestion de sa charge de travail. Notre conclusion générale, en dépit de la nature très diversifiée du travail du Codex, et qu'à l'exception de certains cas où un consensus n'a pas pu être dégagé pour des raisons qui, d'après nous, ne sont pas liées à la gestion du travail, mais plutôt à la nature du travail, le travail du Codex a connu une progression très satisfaisante et tous les Codex ont pu utiliser l'occasion de travailler de façon électronique et d'atteindre des consensus. Peut-être dans certains cas, une amélioration des ressources pourrait réduire le temps nécessaire pour certains comités à atteindre les résultats escomptés. Mais dans certains cas, il est nécessaire de prévoir un temps minimum pour l'obtention des données nécessaires au travail. Dans beaucoup de cas, nous avons analysé les raisons pour lesquelles davantage de temps que d'habitude est utilisé pour atteindre les résultats. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, des régulations nationales par exemple, qui rendent plus difficile le dégagement d'un consensus. Pour ce qui est de l'examen critique et les principes d'analyse des risques, ces outils ont permis au comité d'avoir une approche plus systématique dans la gestion de leur travail. Et peut-être qu'ils se sentent plus expérimentés par rapport à la fonction du comité exécutif dans l'examen critique. Mais il est nécessaire d'avoir encore davantage d'expérience pour savoir comment la vitesse du travail en général au sein du Codex sera affectée. Mais nous avons l'impression, comme l'a dit M. Traoré, qu'il pourrait être utile d'avoir un tableau peut-être différent de celui qui se trouve en annexe de ce document, car il est assez difficile à interpréter, mais un tableau qui montre l'état d'avancement des travaux au sein du Codex, comment les documents traversent cette procédure, quelle est la vitesse actuelle de la procédure. Nous pourrions préparer ce document et le publier sur le site Internet. Il faudrait se pencher sur la question. C'est en tout cas une possibilité qui permettrait de mieux contrôler le travail en continu. Je vais m'en tenir à cela. Nous pourrions peut-être écouter des commentaires généraux avant de passer au comité individuel. Merci. Merci beaucoup, secrétariat. La parole est ouverte pour les commentaires généraux par rapport à ce qui a été présenté par le secrétariat. Membre pour l'Amérique du Nord. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétariat pour ce document très détaillé. Je crois qu'il nous sera très utile. Nous avons un problème au sein du Codex qui nous préoccupe depuis un certain temps. Il s'agit du temps nécessaire, ou du moins de la perception du temps nécessaire pour arriver à des normes. Et on peut voir par le biais de ce document que le temps qui est pris pour compléter ces procédures peut varier largement. Malheureusement, je crois que beaucoup d'entre nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour assimiler toutes les informations présentées ici, car nous n'avons reçu ce document que la semaine dernière. Mais je voudrais dire que la prochaine étape, à mon sens, consisterait à se demander quelles sont les bonnes pratiques, les pratiques qui marchent au sein des comités, et d'approfondir cette analyse de façon à savoir pourquoi certains éléments fonctionnent en certains endroits et pas en d'autres. Et j'espère que le secrétariat pourra nous guider sur la question puisqu'il est le mieux placé pour le faire. Je crois que c'est cela qui nous sera le plus utile, aussi bien au niveau de la perception du travail du Codex, mais en plus pour savoir comment il travaille véritablement. Merci. Merci, membre pour l'Amérique du Nord. D'autres commentaires ? Le membre pour l'Afrique.
Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'associe à la précédente pour féliciter le secrétariat pour ce travail assez fouillé. Je reconnais aussi que c'est un bon début pour qui nous permet de comprendre le fonctionnement de nos différents comités et pouvoir voir dans quelle mesure aller vers l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire adopter les normes aussi rapidement que possible. Parce que je rappelle qu'une de nos préoccupations était de voir comment nous pouvons adopter les normes Codex pour pouvoir occuper l'espace et ne pas laisser d'autres normes, notamment les normes privées, proliférer. En tout cas, pour beaucoup de pays en voie de développement, c'était la préoccupation. À la lecture du document, en tout cas pour moi, c'est un peu mitigé parce que c'est vrai, autant on a trouvé que dans certains cas, on adopte des normes très rapidement, parfois une à deux années, et dans d'autres cas, ça dure très très longtemps. Cependant, l'espoir c'est que je pense que, comme ma collègue là, nous pouvons gagner en échangeant sur les expériences des uns et des autres et aussi en utilisant toutes les approches qui sont prévues, notamment, on a vu que dans certains cas, le fait de mettre les étapes 7 et 6 permet d'aller très vite, le fait d'avoir l'analyse critique, et aussi certainement voir comment agir sur certains éléments limitants, parce que je constate que dans certains cas, on est bloqué parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Et cette insuffisance de données est liée soit que les données ne sont pas du tout disponibles, soit parfois aussi les organes d'experts n'ont pas la possibilité de se réunir parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Ou tout simplement, dans certains cas, on constate que aussi bien les organes scientifiques et même les comités, c'est parfois la période de rencontre qui est très, très vaste. Il reste un bon moment. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels nous pouvons bien agir pour pouvoir améliorer notre méthode de travail et pouvoir accélérer l'adoption des normes. Même si le rapport a conclu que on évolue normalement, c'est-à-dire que le mécanisme d'adoption des normes est satisfaisant, il faut reconnaître quand même que jusqu'à présent, nous avons besoin d'aller plus vite si nous voulons vraiment satisfaire les besoins des normes de nos pays membres. Merci, Monsieur le Président.
Thank you.
Merci, membre pour l'Afrique. Membre pour le Proche-Orient.
Shukran, Zaid Raïs.
Merci, monsieur le président. J'aimerais moi aussi remercier le secrétariat pour son soutien par rapport à cette étude, ainsi que son analyse de l'adoption des normes au sein des divers comités, qui est très utile, surtout dans les domaines de travail des comités les plus importants. Néanmoins, j'ai quelques remarques à faire. Tout d'abord, il est important de préconiser au comité du Codex d'adopter des mesures spécifiques pour l'analyse des risques ainsi que pour l'organisation de son travail. Deuxièmement, il est important d'encourager les États membres à accepter les résultats des avis scientifiques lorsque des désaccords se font jour sur des thèmes spécifiques. Je pense que le fait d'accepter les avis scientifiques nous permettrait d'accélérer le processus d'adoption des normes. Il faut également exhorter les États membres qui disposent de résultats liés, par exemple, à la médecine vétérinaire ou au traitement vétérinaire, à partager ces résultats avec les autres États membres. Merci, Monsieur le Président.
Thank you, member.
Merci, membre pour le Moyen-Orient. Pas d'autres demandes d'intervention. Nous allons donc continuer. Je crois que beaucoup de questions très utiles ont été soulevées. Nous devons cibler le débat et nous, en nous basant sur l'analyse, identifier les processus qui fonctionnent et examiner ces procédures qui pourraient nécessiter une amélioration si ce comité décide d'y procéder. Nous pourrions envisager des mesures supplémentaires pour la progression du travail du Codex, en gardant à l'esprit que cette étude particulière a regroupé des préoccupations qui émanent des normes privées. Nous avons entendu les conclusions du secrétariat par rapport à certains des facteurs qui entrent en jeu par rapport aux vitesses différentes de travail d'un comité à l'autre. Nous allons donc maintenant procéder à un examen comité par comité et nous pencher sur leurs pratiques, leurs approches de gestion du travail pour ce qui est de l'élaboration des normes. Et je demanderai à ce comité de faire des recommandations lorsque nécessaire pour faire progresser les travaux du Codex. Je souhaite également rappeler si l'on pouvait revenir à l'activité 3.4 du plan stratégique. Cette activité est censée être achevée d'après notre plan stratégique. Elle aurait dû être achevée en 2009. De façon à pouvoir donner lieu au début des activités décrites en 3.5. Voilà donc le processus que nous souhaitons démarrer au cours de ce comité. Et je solliciterai de nouveau le secrétariat pour que nous passions en revue tous ces comités et prenions note de leurs approches de gestion du travail, de façon à nous prononcer sur certaines des conclusions et émettre des recommandations à l'attention de la Commission pour ce qui est des meilleures pratiques que nous puissions identifier. Le secrétariat, s'il vous plaît.
Thank you very much, Mr. Chair.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Partie 2 du document. Pour ce qui est du comité du code d'action, les contaminants dans les aliments. Comme vous le savez, le travail de ce comité inclut les LMR des contaminants dans les aliments sur la base des analyses de GECFA. Et une fois adoptées, ces analyses sont publiées dans la norme du codex sur les niveaux de contaminants dans les aliments et produits alimentaires. Des codes sont également élaborés pour empêcher la contamination. Cela n'a pas été pris en compte dans ce document, mais plutôt inclus dans le document précédent relatif à l'élaboration d'autres textes du codex. Et nous avons pu voir que l'élaboration de ce code prend en général 2 ou 3 ans. Ce qui est acceptable, le travail a été assez prompt. Il faudrait également se rappeler qu'auparavant, les comités sur les contaminants et le comité sur les additifs alimentaires n'étaient qu'un seul et même comité. Donc, ces deux nouveaux comités qui sont maintenant indépendants sont assez jeunes au sein du Codex. Les principes appliqués par ces comités, qui sont indiqués dans le manuel de procédure, définissent le cadre de travail et responsabilités des comités du Codex et de GECFA dans ce domaine. La vitesse au sein de ce comité peut être très rapide dans certains cas. Le travail parfois a été achevé en seulement 1 ou 2 sessions du comité. Dans d'autres cas, parfois des avis supplémentaires, si un consensus n'est pas dégagé, peuvent être requis, ce qui nécessite davantage de temps pour l'achèvement des travaux. Je ne sais pas si ma collègue de la FAO souhaite commenter par rapport à ce comité.
The only comment will be that it's a good practice.
Le seul commentaire que je souhaitais faire serait le suivant. Nous parlons de bonnes pratiques qui ont été suivies au cours des dernières années. L'une d'entre elles serait le fait que le secrétaire de GECFA, de la FAO et de l'OMS participe à ce comité des additifs et des médicaments vétérinaires dans les groupes de travail sur les priorités. Il participe également en session, évidemment. Et c'est le premier contact qui est établi et c'est un effort spécial qui est consenti à l'heure de discuter des priorités de travail du comité, car en même temps, on discute des nécessités d'avis scientifiques et du temps pris pour recevoir ces avis scientifiques. Et cela débouche sur une meilleure planification. Aussi bien la FAO que l'OMS ont le même système d'élaboration des budgets, ce qui nous permet de mieux planifier le travail à court terme. Je crois également qu'un des points qu'il faudra prendre en compte pour rendre les rapports disponibles plus rapidement serait de réviser les processus internes d'autorisation des rapports de JECFA. En interne, la FAO et l'OMS doivent suivre un processus d'autorisation qui peut prendre des durées de temps assez différentes. À l'OMS, nos collègues essaient de réduire les temps d'autorisation de ce type de rapport. Dans notre cas, pour ce qui est du moins des monographies qui sont publiées dans le cas des additifs, et qui relève de la responsabilité de la FAO, les temps de publication ont été réduits, mais nous travaillons à l'objectif suivant, qui est d'obtenir les rapports avant les réunions dans les délais les plus brefs. Mais pour résumer, je voulais simplement dire qu'il est donc très important d'avoir ce premier contact pour établir les priorités.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Nous avons des commentaires. Je peux voir le conseiller pour l'Amérique du Nord. Merci, Monsieur le Président. Le rapport tel que présenté par le secrétariat prend note d'un certain nombre d'observations relatives au travail et à la façon dont travaille ce comité. J'ai été moi-même membre de la CCCF et j'ai pu voir moi-même les progrès réalisés au sein de ce comité depuis qu'il a été créé. Donc je peux faire part de mes impressions pour expliquer pourquoi ce comité pourrait être présenté comme un exemple de bonne pratique. Pour continuer sur la ligne de l'argumentation de la FAO, la disponibilité de l'expertise scientifique est un élément critique qui permet au comité de réaliser son travail. Et la bonne pratique à relever ici, c'est l'établissement des priorités qui est effectué avec l'implication du secrétariat du JECFA de façon à garantir que ces priorités soient établies pour le bénéfice du comité lui-même dans le cadre du suivi du processus. Les avis scientifiques sont requis à chaque fois qu'une norme ou un texte était en cours d'élaboration. Le comité a utilisé des façons plus créatives pour obtenir ces informations, et le cas de la mélamine pourrait être cité, puisque l'expertise scientifique a été obtenue au-delà du processus de JECFA, mais en utilisant les mêmes moyens avec la contribution des pays membres qui ont aidé à rendre disponible cet avis scientifique de façon rapide, ce qui a bien évidemment aidé à l'élaboration des normes et qui pourrait être considéré comme l'élément critique permettant à la norme de progresser en si peu de temps. Un autre élément qu'il me paraît utile de mentionner, c'est le fait que ce comité, depuis sa création, et qui en outre est un comité jeune, a adhéré de façon très étroite aux principes d'analyse des risques sur la base desquels ces normes sont élaborées. À chaque fois qu'une divergence d'opinion se faisait jour, dans beaucoup de cas, le comité rappelait ses membres de l'adhérence stricte au principe d'analyse des risques, ainsi qu'au mandat du Codex, c'est-à-dire la protection de la santé des consommateurs et la défense de pratiques équitables du commerce alimentaire. Je pense que la contribution des divers présidents qui ont dirigé le travail de ce comité a vraiment aidé aux membres du comité, a vraiment aidé les membres à dégager un consensus. Et il y avait volonté de la part des divers membres du comité de dégager ce consensus de façon à achever l'élaboration de ces normes à temps. Il s'agit d'une période de temps très récente au cours de laquelle le comité a pu achever un certain nombre de normes qui étaient à l'ordre du jour du CICIFAC, le comité précédent, depuis un certain nombre d'années, et ce en très peu de temps. Et en parallèle, ils ont également endossé du travail supplémentaire qui représentait un intérêt pour ce qui est de la gestion générale de nouveaux aliments. Donc voilà les éléments que je souhaitais partager avec ce comité. Peut-être que nous pourrions tirer des leçons de ces bonnes pratiques et les diffuser à l'attention d'autres comités. Merci.
Thank you, advice.
Je remercie le conseiller pour l'Amérique du Nord. La représentante de la FAO a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement réagir à cette intervention et confirmer qu'en effet, la FAO et l'OMS se sont dotés d'un mécanisme qui permet la tenue de réunions d'experts très rapides, comme dans le cas de la mélamine. Et nous optons aussi pour des discussions de groupe électroniques pour faire avancer les travaux. Merci. Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Il est néanmoins important de noter... Non, pardon, la présidente a la parole. Je la lui donne. Merci, Monsieur le Président. Pour rebondir sur l'intervention tout à fait pertinente du conseiller pour l'Amérique du Nord, permettez-moi d'ajouter une remarque. Un des grands principes du Codex veut que l'on accepte les avis scientifiques par le biais des organes administrés conjointement par l'OMS et la FAO, JECFA, JEMRA, JMPR, etc. Dans le cas de la mélamine, il me semble que des avis scientifiques ont été fournis par un groupe d'experts de l'OMS. Un groupe OMS-FAO. Et pas officiellement dans le cadre d'exercices impliquant le JECFA, JEMRA, etc. Donc, il était le fruit d'un effort conjoint de la FAO et l'OMS. Et il y a ici un principe important, à savoir que tout en étant souple et en pouvant accepter les avis scientifiques provenant d'entités autres que le JECFA, JMPR et JEMRA, ces avis scientifiques doivent à tout le moins passer par la FAO et l'OMS. Ces organisations assument une fonction de supervision, de contrôle. Ils veillent aussi à l'indépendance des avis scientifiques fournis, ce qui est absolument fondamental. Il s'agit là de la base même des normes du Codex. Merci. Merci, Madame. En effet, tel que relevé par les membres, d'excellentes remarques ont été formulées par le conseiller d'Amérique du Nord. J'en ai noté 5 qui méritent d'être mentionnées ici. Premièrement, la disponibilité rapide de données scientifiques, la disponibilité de compétences et d'avis scientifiques, deuxièmement, l'établissement de priorités avec le JECFA pour contribuer au processus d'élaboration des normes. Troisièmement, l'utilisation d'autres sources de données scientifiques dans le cadre du JECFA et les réunions d'experts FAO-OMS. Il a également été indiqué qu'il était nécessaire de respecter au pied de la lettre les principes d'analyse du risque relatifs à l'établissement des normes ainsi que le mandat du codex en la matière. C'est extrêmement important. Et enfin, les présidents ont un rôle à jouer, notamment pour dégager un consensus dans le cadre des processus d'établissement des normes. Voilà les excellentes remarques dont nous pourrions prendre note et transmettre à la Commission pour adoption. Ce qui concerne les processus d'établissement ou les approches de la gestion des travaux. Le coordonnateur pour l'Afrique a la parole.
Thank you, Mr. Chairman.
Merci, Monsieur le Président. J'appuie totalement ces remarques qui ont été formulées en ce qui concerne la disponibilité d'avis scientifiques, d'experts scientifiques, les rôles des présidents dans l'établissement du consensus, etc. Néanmoins, il y a quelque chose d'autre dans ce rapport. Peut-être minime, mais à mon sens essentiel à l'obtention de résultats. Je veux parler de la nature même du sujet et d'autres facteurs qui échappent parfois au contrôle du comité. Dans un des comités, il est question de position nationale. Moi, j'ajouterais les intérêts ou même la loi et la réglementation nationale. Tout cela échappe au contrôle des membres réunis dans ces comités. Et lorsque nous avancerons, nous devrons essayer de voir comment maîtriser les choses, bien que l'on n'ait pas vraiment de maîtrise dans ce domaine. Parce qu'une fois les avis scientifiques présentés, une fois les données scientifiques disponibles, pour une raison ou pour une autre, nous pourrions décider que d'autres facteurs entrent en ligne de compte, mais qui échappent à notre contrôle. Je pense que nous devrions le garder à l'esprit. Merci. Je vous remercie, monsieur. Nous en tiendrons compte. Je vous propose de passer à présent au comité du codex sur les additifs alimentaires. Le secrétariat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le comité du codex sur les additifs alimentaires, CCFA, comme vous le savez, se concentre sur l'élaboration des normes, de la norme générale pour les additifs alimentaires. C'est le gros de son travail, si je puis dire. Vous avez aussi les travaux connexes, les recommandations du JECFA, les spécifications pour les additifs alimentaires, la révision du système de catégorie, le système international de numérotation et l'intégration des dispositions relatives aux additifs alimentaires dans le GCFA, plus tout ce qui est fait pour les aides et le sel de qualité alimentaire. C'est la norme générale pour les additifs alimentaires qui occupe essentiellement le comité sur la base des procédures contenues dans le manuel de procédure pour ce qui est de l'entrée et de réexamen des dispositions dans la norme générale, le comité tient compte uniquement des additifs alimentaires dont la zone, dont la dose jaune dans la DGA a été précisée pour et donc seuls ceux-là sont envisagés pour inclusion dans le GCFA. Lorsqu'il s'agissait toujours d'un comité conjoint avec le comité des contaminants, il a établi des principes d'analyse des risques sur la base desquels ces travaux sont organisés avec le JECFA. Le CCFA travaille avec des groupes de travail qui préparent les travaux du comité. Tout d'abord, un groupe de travail électronique se réunit qui prépare des recommandations en vue de leur adoption pour demander des informations complémentaires ou demander l'interruption des travaux, par exemple. Ces recommandations sont ensuite examinées par un groupe de travail physique qui se réunit juste avant la session du comité. Donc le groupe de travail physique prépare des propositions pour la plénière et discute des propositions. Il est dit que ces dernières années, ce groupe de travail physique n'a pas réussi à progresser à la même vitesse que le groupe de travail électronique, ce qui a entraîné une baisse de la charge de travail assignée au groupe de travail électronique. Vous avez là un résumé des progrès réalisés par le CCFA. Alors, il ne s'agit pas tant d'introduire de nouvelles dispositions pour de nouveaux additifs alimentaires dans la norme. Ce n'est pas cela qui est encouragé, étant donné le retard déjà accumulé dans les travaux réalisés. Il s'agit de voir comment le CCFA a progressé ces dernières années. Vous avez là le nombre des dispositions qui ont été discutées au sein de ce comité. Je m'arrêterai là pour l'instant. Je ne sais pas si la FAO souhaite ajouter quelque chose. Sinon, nous pouvons directement entendre les pays. Merci. La FAO, je voulais simplement ajouter qu'ici aussi, la pratique a été extrêmement positive. On s'est penché sur les besoins en matière d'avis scientifique. En ce qui concerne les additifs alimentaires, les recommandations du JECFA sont, pour ainsi dire, toujours immédiatement adoptées par le comité. Merci. Le président, merci à la représentante de la FAO. De toute évidence, la préoccupation ici tient au fait que ce comité du Codex sur les additifs alimentaires a énormément de retard dans ses travaux. Le comité n'encourage pas l'inclusion de nouvelles dispositions, mais nous avons également entendu en ce qui concerne la procédure et la gestion des travaux, le comité a encouragé le recours au groupe de travail électronique qui formule des observations, suite à quoi un groupe de travail physique, en quelque sorte, se réunit juste avant la session du comité. Néanmoins, malgré cela, le comité a encore du retard dans ses travaux. Avez-vous des réactions, des commentaires ou des propositions à soumettre en ce qui concerne ce comité? Le membre du Pacifique Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi à mon tour de remercier le secrétariat de ces remarques. En ce qui concerne ce comité, je crois savoir que pour ce qui est du retard accumulé, des progrès ont malgré tout été réalisés cette année, des progrès considérables, en ce sens qu'ils sont parvenus à un accord sur le fait que les dispositions pour lesquelles il n'y avait pas de justification technique, en fait, ils ont décidé de ne plus les examiner. Pour un grand nombre d'additifs ou de dispositions, il y a eu des propositions qui ont été faites de nombreuses années en arrière par des membres qui ne sont peut-être plus intéressés ou par des industries qui ont progressé au plan technologique. Et donc, certes, le comité a peut-être un certain retard dans son travail, mais il essaye de trouver des solutions innovantes pour combler ce retard. Merci. Le président, je remercie le membre Pacifique Sud-Ouest pour cette remarque importante dont nous prenons note. Y a-t-il d'autres remarques sur ce comité ? Bien, nous pouvons donc encourager ce comité à poursuivre ses travaux. Nous prenons note des différentes approches de la gestion des travaux récemment adoptées pour surmonter les difficultés rencontrées par le comité. Nous l'encourageons à poursuivre sur cette voie. Et comme cela a été dit, à peut-être se pencher sur les questions en suspens sur lesquelles pourrait avoir une incidence l'évolution technologique enregistrée ces dernières années. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, nous passons au comité du Codex sur les résidus de pesticides, le CCPR, le secrétariat, la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le comité du Codex sur les résidus de pesticides est principalement chargé de fixer les LMR de pesticides dans l'alimentation animale et humaine et les limites maximales de résidus d'origine étrangère pour les contaminants environnementaux et industriels présentant une similitude chimique ou autre avec les pesticides dans des denrées alimentaires spécifiques ou des groupes d'aliments. Par ailleurs, le comité responsable de la méthodologie d'échantillonnage et d'analyse utilisée pour déterminer les résidus de pesticides dans l'alimentation animale et humaine est chargé d'établir une liste de pesticides qui devront être évalués en priorité par la réunion conjointe FAOMS sur les résidus de pesticides, JMPR. Le comité travaille en collaboration avec le CCRVDF, le comité sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments, en vue d'harmoniser les LMR et s'assurer que les LMR harmonisés soient instaurés à l'échelle internationale pour les composés utilisés à la fois comme médicaments vétérinaires et comme pesticides. Le comité travaille également en coordination avec le CCMAS, comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Il formule la méthodologie générale d'échantillonnage et les méthodes d'analyse pour s'assurer qu'elles soient dûment reflétées dans les documents du CCPR. Alors, le comité emploie l'étape 8 des procédures d'élaboration des normes du Codex. Il a établi des. Il utilise les recommandations en matière d'analyse des risques, les principes d'analyse des risques appliqués par le Comité sur les résidus pesticides. Vous avez une liste des politiques en la matière utilisées par le CCPR ainsi que des critères de la procédure d'établissement de la liste des composés évalués en priorité par le JMPR. Le comité, avec le JMPR, s'est organisé de manière à pouvoir adopter les LMR rapidement. Dans la plupart des cas, celles-ci peuvent être adoptées en moins d'un an. La réunion du JMPR en septembre produit des recommandations en matière d'évaluation des risques, lesquelles sont immédiatement consultées, diffusé pour observation à l'étape 3 examinée par le CCPR en avril. Dans 95 à 97% des cas, si les membres n'ont fait aucune réserve, les propositions sont envoyées à la commission pour adoption à l'étape 5-8. Donc c'est là une des procédures les plus rapides du codex. Il est précisé toutefois qu'il faut attendre de 2 à 5 ans pour que les gouvernements communiquent les données nécessaires à l'évaluation de la JMPR. Donc là, nous avons parfois un goulot d'étranglement. Le tableau vous donne un aperçu de ce qui s'est passé ces dernières années. Le comité s'est montré relativement créatif dans la gestion de son travail. En effet, de nombreuses critiques lui avaient été adressées parce que les gouvernements nationaux adoptaient plus rapidement des LMR, lesquels étaient ensuite difficiles à modifier. Il s'est donc efforcé d'utiliser des LMR intérimaires. Un projet pilote a été lancé portant sur l'examen des LMR nationales pouvant être utilisées à titre provisoire. L'on a montré que les procédures d'établissement actuelles pouvaient être utilisées notamment pour l'étape 5-8 pour faire avancer rapidement les LMR. Mais c'est une approche qui a été abandonnée. Vous avez à présent un nouveau projet pilote que vous expliquera peut-être ma collègue de la FAO, qui s'inspire aussi de cette expérience avec les LMR provisoires. L'idée étant de tenir compte de la diversité des LMR utilisés pour avancer plus rapidement encore. Je vais donner la parole à la FAO pour nous expliquer de quoi il retourne. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous aurez le document sous les yeux. En page 7, vous avez les éléments clés de ce projet pilote qui vise précisément à accélérer les travaux du comité. Nous espérons que cette année, ce projet portera ses fruits pour que nous puissions en discuter et voir si l'on ne pourrait pas trouver un mécanisme susceptible d'accélérer encore les travaux au sein de ce comité. Voilà, c'est tout. Merci. Merci au secrétariat, merci à la FAO, dit le président. Hier, nous avons approuvé le projet pilote. Qui, je pense, devrait porter ses fruits et nous permettre de voir si le comité pourrait recommander cette approche pour permettre une adoption rapide des LMR au sein de ce comité. C'est la FAO qui souhaite la parole. Pardon, Monsieur le Président, je pense avoir commis une erreur dans ce que j'ai dit. Notre conseiller pour l'Asie est présent. Il a participé à ces travaux et je pense m'être trompée. Avec votre permission, j'aimerais donner la parole au conseiller pour l'Asie pour compléter ce qui figure ici dans ce document et pardonner mon erreur.
Advisor for A.
Le conseiller pour l'Asie a la parole. Merci, Monsieur le Président. Désolé pour ma voix, j'ai un chat dans la gorge. Les résultats du GMPR seront publiés en 2011. L'année suivante, le CCPR discutera des recommandations découlant de ce GMPR. Donc, si tout se passe comme prévu, nous Nous obtiendrons donc des résultats dans 2 ans, 2012, dans l'été. Mais si les choses ne se passent pas comme prévu, eh bien, nous les recevrons plus tard. 2012, ou plus tôt, voire plus tard. Le président, je remercie le conseiller pour l'Asie. Nous avons donc un document et un calendrier. Nous avons approuvé le document contenant les nouvelles activités. Nous l'avons approuvé hier. Oui. Vous avez la parole. Madame le Président. Merci, Monsieur le Président. Je relève avec intérêt en ce qui concerne les travaux du CCPR et les approches de la gestion des travaux, que l'on a lancé l'utilisation d'un formulaire en 2006, formulaire de consentement. Lorsque des délégations sont préoccupées à l'idée d'avancer une LMR donnée, lorsque la délégation s'oppose à ce qu'une LMR donnée soit avancée, elle remplit ce formulaire de notification de réserve, explique ses préoccupations, indique les données qu'il faudra soumettre pour justifier la réserve dans un délai d'un mois suivant la session du CCPR. Il me semble que cette approche est des plus intéressantes et pourrait peut-être être reprise par d'autres comités produisant des normes numériques telles que CCR-VDF. Pourquoi pas? C'est une possibilité qui mériterait d'être étudiée. Cela pourrait permettre en partie de répondre à certaines préoccupations soulevées par les délégations telles que suggérées par le coordonnateur pour l'Afrique. Préoccupations liées à des sensibilités régionales. Comme l'a relevé le coordonnateur pour l'Afrique, ces préoccupations ne sont parfois nullement scientifiques. Parfois, elles sont à la croisée des chemins entre la science et la politique. Mais ce formulaire de réserve, de notification de réserve, pourrait permettre de se concentrer sur les questions susceptibles de poser problème, voire même de trouver des solutions. Donc, je pense que le comité exécutif pourrait songer à recommander l'utilisation généralisée de ce formulaire de notification de réserve. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Thank you, Chair. Member.
Merci, Monsieur le Président. Le membre pour le Pacifique Sud-Ouest. Merci, j'allais en fait dire la même chose que notre président. D'après notre propre expérience au CCPR, une notification de réserve a été utilisée. Lorsque l'on lit les documents, on peut voir qu'il semble y avoir beaucoup de similarités entre le travail du CCPR et celui de CCR-VDF. Mais il y a peu de similarités dans les approches qu'elles ont adoptées. Et lorsque l'on en viendra à la section concernant les médicaments vétérinaires, je me demandais si le comité pourrait faire une recommandation assez forte visant à ce que le comité sur les médicaments vétérinaires se penche sur la façon dont le CCPR a réalisé son travail au cours des cinq dernières années, et en particulier concernant l'utilisation de la notification de réserve qui au moins pourrait être essayée par ce comité pour une certaine période de temps. J'aurai davantage de commentaires une fois qu'on en viendra à cette section. Merci.
Thank you, member.
Merci. Membre pour le Pacifique Sud-Ouest, le conseiller pour l'Asie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Désolé, ma voix empire. La notification de réserve utilisée par le CCPR fonctionne très bien. Ce système a été créé parce que certains pays peuvent refuser certains MRL. Et plus tard, ce même pays pourrait réitérer son refus sans expliquer sa préoccupation. Donc au final, il a été décidé par le CCPR que quiconque aurait une préoccupation, en particulier lorsque cette dernière est sous-tendue par des bases scientifiques, alors les préoccupations peuvent être expliquées, justifiées et envoyées au GMPR pour étude. Et la GMPR, dans certains cas, ne peut rien faire, mais dans d'autres, lorsque ce sont des documents ou des données accompagnant la notification qui sont envoyées, une évaluation scientifique peut être entreprise et les décisions finales se fondent sur des preuves scientifiques. En ce sens, les choses étaient clarifiées et plus transparentes. D'autre part, un pays ne peut pas refuser simplement pour des raisons économiques. Donc je pense que ce système fonctionne et pourrait également fonctionner dans le domaine du CCRVDF. Mais comme l'a dit le président, le même terme pourrait être utilisé ou un terme différent. En tout cas, le même procédé peut être adopté dans d'autres domaines où des préoccupations économiques sont au premier plan. Je voulais juste clarifier ce que peuvent faire ces notifications de réserve pour le CCPR. Merci au conseiller pour l'Asie. Je crois que nous avons eu une très bonne discussion concernant le CCPR. Nous prenons note de l'utilisation complémentaire d'une notification de réserve. Et comme l'a suggéré un des membres du comité, nous pourrions envisager de recommander que d'autres comités qui élaborent des normes numériques envisagent son utilisation aux fins de faire progresser leur travail. Nous notons du commentaire du conseiller de l'Asie que cette notification prévoit un mécanisme qui doit être suivi pour qu'elle soit un outil utile au comité. C'est pourquoi d'autres comités souhaitant adopter cet outil devront se pencher sur le mécanisme en question concernant l'utilisation de cette notification de réserve. Donc, nous vous remercions pour ces observations. Nous allons passer à un autre comité qui est très pertinent. Il s'agit du comité sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Donc, très rapidement, le secrétariat concernant les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le comité sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments nous parlons d'un nombre très différent de résidus par rapport à la JCFA ou les résidus pesticides. comme on l'a déjà dit, la difficulté dans ce comité est d'un tout autre ordre. Le comité a récemment achevé l'élaboration de directives liées au programme de sécurité alimentaire concernant les risques liés à l'utilisation de médicaments vétérinaires sur des animaux producteurs d'aliments, qui viennent remplacer deux précédents textes et le code d'usage. Les retards au sein du comité sont au minimum. Donc au cours de la prochaine CCRVDF de 2010, seules deux substances seront considérées pour les LMR. Néanmoins, des discussions concernant de nouveaux travaux auront lieu. Donc il n'y a pas de retard énorme par rapport au travail à effectuer. Et au sein de ce comité, les substances sont traitées de façon relativement rapide par le biais de cette procédure, et beaucoup de recommandations sont avancées à l'étape 3 et directement passent à l'étape 5-8. Et si tel est le cas, le travail peut être achevé en moins de 3 ans. Le comité a identifié un certain nombre de facteurs qui ont un impact sur la vitesse de son travail. Le premier est la législation nationale. Les retards sont souvent dus à l'opposition de membres du Codex qui souhaitent utiliser leur législation nationale comme base pour l'élaboration des normes. Une meilleure application des principes d'analyse des risques appliqués par le comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments permettrait d'accélérer l'élaboration des LMR Codex pour les médicaments vétérinaires. Il y a parfois un problème avec le calendrier des réunions, comme l'a dit ma collègue, ainsi que la disponibilité des données, ainsi que la disponibilité à temps des rapports du JECFA, dont on a déjà parlé auparavant. Dans le tableau qui suit, vous pouvez observer la vitesse de progression des travaux au cours des dernières 9 à 10 années. Cette vitesse n'était pas lente, mais il y a certains cas problématiques pour les raisons qui ont déjà été mentionnées. Je vais laisser la parole à ma collègue de JECFA, de la FAO-OMS, qui nous en dira davantage par rapport aux interactions avec le JECFA. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Tricha de l'OMS JECFA. Je m'excuse de ne pas avoir pu être avec vous auparavant. Nous avons une autre rencontre parallèle au sixième étage. Et si on me prévient suffisamment à l'avance, je peux venir pour vous en dire davantage sur le processus de prise de décision. Par rapport aux interactions entre ce comité et JECFA, les calendriers des rencontres sont mieux gérés puisque le CCRVDF utilise un calendrier sur 2 mois plutôt que 2 ans, pardon, plutôt que 18 mois. Le problème est ailleurs et je vais être franche. Il semblerait que le système Codex et JECFA ne disposent pas du soutien nécessaire de certains pays pourraient le faire. Certaines données qui pourraient nous être utiles ne nous sont pas envoyées. Par conséquent, le JECFA ne peut pas procéder aux analyses nécessaires à la progression des travaux. Aucune rencontre n'a été prévue pour l'évaluation des limites concernant les médicaments vétérinaires puisqu'on ne nous a pas envoyé suffisamment de demandes. Nous devons avoir un nombre minimal de demandes qui nous permettent d'organiser une réunion de façon à avoir suffisamment d'expertise pour dégager un consensus et arriver à une conclusion. Voilà la situation telle qu'elle se présente à l'heure actuelle.
Thank you very much, WHO.
Merci beaucoup, MES. Les discussions précédentes avec le CCPR étaient liées à ce comité particulier dont nous devons garder à l'esprit ce qui a déjà été dit. Donc je donne la parole au membre pour l'Amérique du Nord.
Thank you, Chair.
Merci. Je voudrais juste faire un commentaire et en dire un peu davantage sur ce qu'on a déjà relevé. On a relevé que ce comité ne connaît pas de retard considérable et que les choses avancent assez rapidement. Mais l'OMS, au cours de sa dernière intervention, a relevé que les données, souvent, les informations ne sont pas rendues disponibles de façon à ce que tout le monde puisse réaliser une évaluation. Et il me faut vraiment le dire, ce comité voit ses travaux largement entravés par le fait que les propriétaires, les détenteurs d'informations, et il s'agit souvent des entreprises pharmaceutiques, ne sont pas très intéressés par ces processus si la science n'est pas prise en compte au final. Ce sont des faits. Ce comité tirerait un grand profit de conseils visant à l'aider à surmonter le problème de la législation nationale, qui est en général la source principale des problèmes que l'on connaît. Néanmoins, ce comité est très entravé par ce problème de manque de données. Et c'est une très mauvaise chose et c'est mauvais pour les pays qui ont besoin de LMR. Donc ce comité doit véritablement se demander comment gérer ce problème qui est un facteur réel entravant le travail de ce comité.
Thank you very much, Advisor North America.
Merci beaucoup, conseillère pour l'Amérique du Nord. Y a-t-il des commentaires supplémentaires par rapport à cette question? Il s'agit d'une question très difficile, un problème difficile lié à la législation nationale qui entrave le travail de ce comité en particulier, le comité sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Vous avez entendu les déclarations franches des deux dernières intervenantes. Quelle serait la recommandation de ce comité ? Conseiller pour l'Amérique du Nord.
Thank you, Mr. Chair.
Merci, Monsieur le Président. Nous pourrions peut-être émettre une recommandation très claire à l'attention de ce comité en lui demandant de respecter le point 4 de l'appendice au manuel de procédure et la déclaration de principe concernant le rôle de la science dans le processus de prise de décision du codex et la prise en compte d'autres facteurs. Et je cite ce paragraphe. Lorsque les membres du codex se mettent d'accord sur le niveau nécessaire de protection de la santé publique, mais ont des opinions différentes par rapport à d'autres considérations, les membres peuvent s'abstenir d'accepter la norme considérée sans nécessairement empêcher la décision d'être prise par le codex. Et cela a déjà fait l'objet d'un accord dans notre manuel de procédure et pourrait constituer une recommandation de notre comité OCCNVDF. Vous pouvez le trouver à la page 180 du manuel de procédure, si vous voulez trouver la citation exacte. Merci.
That is a proposal from the member of...
Voilà donc une proposition du conseiller pour l'Amérique du Nord. J'ai des commentaires à faire. Y a-t-il des commentaires à faire, pardon? L'OMS.
Thank you very much, Mr. Chair.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais simplement faire remarquer que cette proposition ne concerne qu'un seul des problèmes qui a été soulevé au sein de ce comité et n'a aucun lien avec le problème de manque de soutien ou le manque de données qui nous sont envoyées par ceux qui les détiennent. Je ne sais pas quelle proposition faire, car nous avons des difficultés depuis longtemps sur ce point. Mais si des recommandations pouvaient provenir du Codex lui-même pour encourager peut-être le CCRVDF à penser à des méthodes et des moyens d'encourager les détenteurs d'informations à nous les envoyer. Car le fait est que l'OMS et la FAO n'ont aucun moyen de faire pression sur les détenteurs de données ou de les encourager à nous envoyer les données. Il s'agit de pays et d'États membres et d'autorités de régulation.
Thank you very much,
Merci beaucoup. Nous avons une difficulté ici. Le membre de l'Amérique du Nord nous disait que les détenteurs de données pourraient souhaiter soumettre leurs données, mais si ces données scientifiques ne sont pas prises en compte, eh bien cela leur pose problème. Nous avons entendu de l'OMS que nous, en tant qu'État membre, devrions encourager les détenteurs d'informations par le biais de nos autorités de régulation respectives à soumettre ces données. Donc il faut concilier ces deux éléments. Et j'aimerais que l'on puisse dégager un moyen de rédiger cette recommandation et la soumettre à la Commission. Je crois que l'Amérique du Nord souhaite prendre la parole. Oui, je voulais juste relever le fait que il y a des moyens d'encourager les détenteurs de données à les encourager à soumettre ces données. Il faudrait le faire. Mais si le comité n'utilise pas les avis scientifiques qui ont été fournis par le passé, et si cela a incité les détenteurs de données à retenir ces données et à ne plus les soumettre, eh bien cela est un problème. La FAO ? C'est un facteur décisif, Monsieur le Président. Il serait très bon que le comité exécutif soumette une recommandation à la Commission sur ce point.
Thank you, FAO.
Merci, FAO. Pour essayer d'avancer au sujet de ce comité particulier. Tout d'abord, nous sommes mis d'accord pour encourager ce comité à envisager l'utilisation de cette notification de réserve et de voir si elle est adéquate par rapport à son travail. Deuxièmement, la proposition du conseiller de l'Amérique du Nord, que l'on trouve à la page 200 de la version française du manuel de procédure, est de demander à la CCRVDF d'adhérer au principe qui est énoncé au point 4. Et dernièrement, d'encourager les détenteurs de données à soumettre ces informations au comité et les États membres, par le biais de leurs autorités de régulation respectives, doivent encourager les détenteurs d'informations à soumettre ces informations au comité. Il a également été proposé que la même déclaration soit transmise à la Commission de façon à ce que les États membres encouragent les détenteurs de données à envoyer les données scientifiques à ce comité particulier. Voilà, en résumé, la marche à suivre pour le comité sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. Nous passons donc coordinateur pour l'Afrique, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Suite à votre résumé, je me demande que ferait ce comité à l'heure de réaliser l'examen critique. Lorsque nous avons une série de critères que l'on utilise en tant que comité pour nous assurer que ces étapes ont été suivies avant d'émettre notre recommandation à la Commission, puisque le processus comporte plusieurs étapes, 5, 3, 8 différentes. Donc, quelles seraient les étapes à utiliser pour que l'on s'assure que les recommandations que nous faisons sont véritablement suivies et sont conformes à la procédure? Il faudra éviter que la Commission n'engendre des problèmes supplémentaires. Je crois que le comité doit jouer son rôle qui s'inscrit dans le cadre de ce processus et clarifier ce rôle.
Let's get clarification from secretary.
Nous allons entendre des clarifications du secrétariat.
Thank you, Mr. Chairman. The MR.
Merci. Les LMR font l'objet d'examens critiques aux étapes 5 et 8 au sein de ce comité. Du point de vue de l'examen critique, il a toujours été acceptable lorsque des avis scientifiques sont fournis. Nous nous penchons sur le processus et non pas sur les commentaires. Donc, du point de vue de l'examen critique, on se penche seulement sur le processus et non pas sur les objections possibles émanant d'États membres au niveau, pour ce qui est des LMR ou autres. Donc, du point de vue de l'examen critique, il y a toujours eu accord au niveau du comité exécutif dans le cas de ces LMR, puisque le processus avait été suivi, la procédure avait été suivie. Donc tout allait bien du point de vue de l'examen critique, puisque le comité exécutif ne prend pas en compte les commentaires spécifiques des pays membres. Il revient à la Commission de le faire. Donc nous utilisons la procédure régulière pour tous les LMR. Merci.
Member for Southwest.
Membre pour le Pacifique Sud-Ouest, s'il vous plaît.
Thank you, Mr. Chair.
Merci. Pour continuer dans la même lancée, nous pourrions encourager au comité, lorsqu'ils soumettent leurs commentaires, par rapport aux normes en cours d'élaboration, qu'il nous fasse part des difficultés le plus tôt possible par rapport aux procédures, de façon à ce que nous puissions leur suggérer des mesures à prendre à une étape plus précoce de l'élaboration des normes. Cela pourrait constituer une conclusion à cette discussion. Je pense que nous devrions vraiment encourager les présidents, lorsqu'ils apportent des commentaires relatifs à l'examen critique, de nous faire part des problèmes qui se posent un peu plus en amont.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Je crois qu'il s'agit là d'une bonne idée et qu'elle devrait être incluse dans notre recommandation. Pouvons-nous... Je vois qu'il est 11 heures.
Ok, I'm advised that we break for 15.
On me dit que nous allons marquer une pause de 15 minutes puisque nous avons fini les normes numériques. Donc, nous nous retrouverons ici dans 15 minutes. Merci.